Cinémag sur Radio Grand Ciel, une émission de l'option cinéma du lycée Rotrou de Dreux, proposée par
Sandrine Cornu,
Christelle Vaudève
et Thierry Méranger. Bonjour à toutes et à tous, voici le nouveau numéro de Cinémag et pour commencer ce nouveau numéro, un petit point concernant les tournages du lycée Rotrou. Il faut savoir que très bientôt va se dérouler le festival du film scolaire de Chartres qui s'appelle Cinéclap. Ce sera du 4 au 7 juin et que le lycée Rotrou va proposer à la sélection un certain nombre de films. Parmi ceux-ci, certains qui sont déjà tournés et même montés et dont nous allons vous donner des nouvelles, n'est-ce pas Christelle ?
Oui, alors effectivement, ce sont 4 films qui seront inscrits au Festival de Chartres cette année et nous voulons faire un petit point sur l'avancement notamment d'un film dont nous vous avons déjà parlé. Il s'agit même de 2 films puisque nous avions évoqué avec vous ces 2 projets en terminale qui sont axés sur une histoire purement locale, sur une histoire tout à fait drouaise. Il s'agit de l'évocation de la déportation d'une jeune drouaise d'origine hongroise et sur les traces de laquelle les élèves sont partis encadrés par le réalisateur Raphaël Jacoulot dont nous avons déjà parlé ici puisque nous l'avons accueilli à plusieurs reprises pour montrer certains de ses films lors de projections du Cinéclic.
Alors que sait-on de Livia Zinger aujourd'hui puisqu'il s'agit de la jeune Livia Zinger qui habitait à Dreux jusqu'en 1943?
Voilà, mais nous savons que cette jeune fille, donc d'origine hongroise, était arrivée à Dreux avec ses parents, où elle était élève à l'école pratique, où elle prenait des cours notamment de couture. Nous savons aussi que cette famille était très assidue au cercle laïque, qui était déjà un haut lieu de la vie associative drouaise, et que notamment Livia était membre de la chorale du cercle laïque. Nous savons que la famille Zinger a été déportée en 1943. Nous savons que la famille Zinger a fait une halte à Drancy, dans le camp de transit de Drancy, avant d'être conduite vers les camps de la mort. Et nous savons qu'aucun des membres de cette famille n'est revenu.
Alors, comment les élèves se sont-ils emparés de cette histoire ? Est-ce que tu peux préciser à nouveau quelle était l'étendue du projet ?
Ce projet pour des élèves de terminale, en tout cas un projet d'une assez grande ampleur, puisqu'il s'agissait de tenter de retrouver des témoins d'une époque finalement assez lointaine, et de retrouver donc la trace de cette famille, notamment de Livia. Alors il y avait évidemment une proximité entre Livia et les élèves, bien que de nombreuses années les séparent, puisque Livia était un poil plus jeune que nos élèves, donc forcément une identification s'est effectuée. Nous avons donc mené différentes enquêtes avec les élèves, notamment au cercle laïque, où nous avons retrouvé traces de cette famille dans de nombreuses archives. Et surtout, nous avons eu la chance de rencontrer un acteur très important de la mémoire locale, et notamment de la mémoire de la communauté israélite de Dreux, en la personne du docteur Botvinnik, que je pense de nombreux Drouais connaissent, qui, à la demande de l'Association des fils et des filles de déportés juifs de France, donc association créé et dirigé par les époux Klarsfeld, se fait un devoir de retrouver précisément lui aussi des traces de Livia Zinger. Il a au fil des années accumulé une très riche documentation et son témoignage personnel aussi a pu être extrêmement utile à nos élèves. Nous l'avons rencontré à plusieurs reprises. Il nous a fait l'honneur de nous recevoir chez lui et de partager avec nous toute cette banque d'informations qu'il a à sa disposition, qui bien sûr a été d'une très grande aide pour le projet.
Et puis il y a eu aussi le fait pour les élèves de retrouver directement des témoins de l'époque, et en particulier des témoins de l'arrestation d'Olivia Zinger.
Oui, alors ça a été aussi une enquête, c'est d'ailleurs un petit peu le schéma qu'emprunte le film. Le schéma narratif du film est celui d'une enquête, puisque les élèves mettent en scène finalement l'enquête qui a été la leur, et cette quête pour trouver donc divers documents, et notamment, mais ça on ne le savait pas encore à l'époque, notamment des témoins, donc des camarades de classe de Livia, qui pour certains ont été assis sur les mêmes bancs qu'elle à l'école pratique, et deux dames en l'occurrence qui ont assisté à la rafle dont a été victime Livia, puisqu'elle a été raflée au sein de l'école pratique. Et donc nous avons retrouvé 2 témoins directs qui ont raconté ce moment évidemment très, très émouvant.
Alors pour ceux qui ne le savent pas, ils sont sans doute nombreux, cette école n'existe plus en tant que telle, mais ça correspond à des bâtiments bien connus qui sont ceux de l'Office du tourisme à l'heure actuelle.
C'est tout à fait ça. Nous avons retrouvé aussi la maison dans laquelle a vécu Livia Zinger, qui bien sûr a subi quelques rénovations depuis, mais c'était une maison qui était située rue Clay, donc tout à fait près du cercle laïque donc que la famille fréquentait assidûment, et nous avons retrouvé une dame qui a vécu elle aussi dans cette maison.
Alors ça, c'est le documentaire qui a été réalisé à partir de l'histoire de Livia. Il y a d'ailleurs pour l'instant deux versions de ce documentaire.
Oui, alors ce documentaire fait l'objet d'une version entre guillemets courte, puisque les impératifs du bac nous imposent de réaliser un film de moins de 20 minutes pour le baccalauréat. Donc cette version est celle qui sera présentée par les élèves devant le jury de bac. Mais face à l'importance des témoignages et des recherches, donc à l'importance des images qu'ont tournées les élèves, nous avons réalisé aussi une version longue d'une quarantaine de minutes qui est un petit peu plus dense.
Et qui remonte en fait le temps tout en se prolongeant jusqu'à aujourd'hui, puisque la version longue évoque aussi la question qui d'ailleurs a été posée au tout début de la recherche des élèves, de la future inauguration d'une future rue Livia Zinger.
C'est ça, puisque c'est un projet qui est porté par la mairie depuis un certain temps et qui, nous l'espérons, devrait voir le jour assez prochainement. Nous avons vu à ce sujet Madame Philippe, qui participe donc en tant que témoin dans cette version longue. Une rue devrait porter le nom de Livia Zinger dans le quartier des Fenots, très près de la rue Anne-Franck.
Le documentaire n'est pas la seule production des élèves de terminale du lycée Rotrou à partir de l'histoire de Livia Zinger. En effet, un autre groupe s'est intéressé à cette histoire pour la traiter davantage d'un point de vue fictionnel. Alors comment est-ce qu'on peut faire une fiction à partir de cette histoire vraie de Livia Zinger ? Comment les élèves s'y sont-ils pris ?
Les élèves ont imaginé finalement ce qu'avait pu être la vie de Livia Zinger et ce qu'avait pu être son quotidien donc de jeune fille juive et donc menacée, se sachant menacée, comment on pouvait vivre cette situation et tâcher autant que faire se peut d'être peut-être une jeune fille comme les autres avec les préoccupations de son âge. Donc c'est ce terreau-là qui a nourri leur fiction, et les élèves ont aussi imaginé, en raison de l'actualité qui est la nôtre, de faire un lien, un pont entre la situation donc, qu'ils ont imaginée d'Olivia en 1943 et la situation plus actuelle d'une jeune fille syrienne qui serait réfugiée en France et qui vivrait dans la crainte d'être renvoyée dans son pays.
Donc superposition de deux héroïnes, pourrait-on dire. Et évidemment, le film sera diffusé d'une part au lycée Rotrou lors de la rétrospective annuelle qui aura lieu le jeudi 7 juin, mais aussi, espérons-le, le film sera en sélection avec le documentaire dont nous avons parlé auparavant au Festival de Chartres Cinéclap. Parmi les autres projets du lycée Rotrou, il y avait le projet des élèves de terminale d'options de spécialité. Alors l'option de spécialité, ce sont ceux qui font, on va dire, le plus de cinéma au lycée Rotrou, puisqu'ils sont en terminale, ils ont déjà fait des films durant les années précédentes, et surtout, ils ont au moins 5 heures de cinéma par semaine. Et parmi leurs thèmes, ils avaient le thème de la méprise. De quoi s'agissait-il, Christelle ?
Alors oui, la méprise, l'usurpation d'identité était un thème propice à un genre peut-être plus léger que celui des terminales options facultatives. Ils ont donc réalisé deux films qui sont donc tous deux comédies peut-être un peu grinçantes, en tout cas pour l'une d'entre elles. Donc les élèves ont réalisé une comédie qui s'appelle « Douce nuit », où il est question d'un babysitter qui est attendu pour que les parents puissent sortir. Et la personne qui se présente n'est peut-être pas tout à fait celle qu'on croit. Et bien sûr, un certain nombre de quiproquos vont s'enchaîner et faire passer finalement le film d'un côté un peu thriller, un peu dramatique, vers quelque chose de beaucoup plus léger.
C'est ça qui était intéressant dans la conception du film, le fait de passer d'un film véritablement de genre à une comédie pure. Et c'est pas si fréquent que les élèves du lycée Rotrou s'attellent à la comédie, et moins fréquent encore qu'ils s'y attellent avec un certain succès. Or là, on peut dire que les premières images montrent que le film est indéniablement drôle.
Oui, alors l'exercice de la comédie, effectivement, est sans doute un des plus compliqués. Il s'agit d'une mise en scène très rigoureuse, un peu, dirons-nous, au scalpel, et que pour qu'une comédie fonctionne bien, il faut tout de même une très grande maîtrise, que n'ont pas forcément encore nos jeunes élèves de terminale. Mais effectivement, cette année, le fait de passer d'un genre à l'autre est assez réussi, semble-t-il, dans Douce Nuit.
Alors, l'autre film de cette même classe est un film au titre encore plus mystérieux qui s'appelle Gomery et Montgomery. Il s'agit d'une histoire policière avec des policiers, on va dire un petit peu loufoques, et puis des suspects qui ne le sont pas moins, en sachant que, bien entendu, comme d'habitude, eh bien, il y a une histoire de quiproquo, une
Voilà.
histoire d'erreur.
Un suspect peut en cacher un autre et peut-être que le coupable, là encore, n'est pas celui qu'on croit. Et donc, pour revenir sur le genre et le ton du film, tu parlais, Thierry, de policiers un peu loufoques. Je pense qu'on peut inscrire le film dans une veine qui serait un peu celle de Bruno Dumont avec Petit Quinquin, avec des policiers effectivement un peu particuliers.
Pas forcément conforme à ce qu'on attend d'eux, en tout cas.
Voilà, c'est ça, et qui va pour le coup permettre au film de verser vers une comédie un peu déjantée, un peu décalée, mais assez efficace.
Avec une galerie de portraits particulièrement remarquable, tant dans les premiers rôles que dans les seconds rôles, qui ont été particulièrement soignés. On peut en effet remercier certains professeurs du lycée Rotrou qui ont joué dans le film, qu'il s'agisse du rôle d'un des policiers, du rôle du psychopathe, ou même du rôle tout à fait excellent de la voisine Abby Goody, qui est interprétée voilà, par une de nos professeurs, qui est sans doute une des meilleures actrices de l'année.
Voir du monde. Merci de nous avoir suivis, chers auditeurs. Nous vous disons à la semaine prochaine.
Et on se quitte avec un titre de Maurice Fanon, La Petite Juive, qui est dans la bande originale d'un des projets consacrés à Livia Zenger. Bonne semaine!
Dans ce monde borné de quel entre-deux-guerres, où ceux qui font les lois les troussaient par derrière, nous n'avions que 5 ans du pain sec au dessert, pour 5 lettres de trop ou un P de travers. On nous disait, tu vois, c'est la croix que grand-père a gagné au chemin des dames et nos grands frères, abandonnant le bleu pour un kaki douteux, cocufier Madelon dans les bras de Marlène. Une fois là, nous allions voir entre père et mère la victoire en chantant nous ouvrir la barrière, et nous nous en allions en suçant des bonbons, jouer du revolver à deux sous le bouchon. Et je me souviens, la petite juive, elle me disait, viens, elle était jolie, on faisait des bêtises, où on ne faisait rien. Elle s'appelait Lise, et je m'en souviens.